Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 181e épisode de Torréfaction. Comme tous les vendredis matins ou les jeudis soirs, si vous êtes abonné à Patreon, on se retrouve pour une petite sélection de l'actu, sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour. Comment ça va? Eh bien écoute, j'ai la même idée. Moi, je l'ai dit en premier. Non, je crois que je l'ai dit en premier. Je crois que c'est toi qui réponds d'abord.
Ça dépendra comment je le monte en fait.
Tricheur. Ah là là. Bon, je crois que tu as le nez un peu pris. Hein. Je crois que tu es un petit peu malade.
Je suis un petit peu enrhumé et puis surtout, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que voilà, ce qui, je sais pas à toi que je vais apprendre le classique. Je vais, tiens, si je faisais ça, ça prendra 5 minutes et puis après tu relèves la tête et il y a 5 heures qui sont écoulées.
Ce soir, je me couche tôt.
C'est ça. Donc voilà. Donc vous m'excuserez pour mon timbre un petit peu caverneux, mais on va faire avec.
Ouais. Moi, je fais ça d'habitude tout le temps, et là, cette nuit, j'ai un peu récupéré. Tu vois, comme quoi, des fois, parfois, on a de la chance.
Bon, allez, on attaque tout de suite parce qu'on a une conduite quand même plutôt volumineuse et particulièrement du côté de la tech, mais on va commencer avec le gaming et les PUBG News.
Ouais, parce que, écoute, le jeu bouge encore, ils essayent toujours de nous faire aimer Miramar, qui est une carte que on déteste, nous, sur Geekzone, il faut le dire. Généralement, quand on est en train de jouer avec les bons sirs Archeon et Spy, quand on arrive sur Miramar, on sort du jeu directement et on relance une game pour avoir quelque chose d'autre. On n'aime vraiment pas ce truc-là. Elle a été redesignée, ils ont refait les éclairages, ils ont refait des coins entiers de la carte. Par exemple, il y avait des coins où tu avais des collines, tu pensais que tu pouvais y aller, mais en fait, pas vraiment. Là, ils les ont carrément transformés en falaises.
D'accord.
Donc, il n'y a plus de doute possible. Et du coup, ça file un cachet assez sympa, la carte, en tout cas en screenshot. T'as un petit côté Far West qui rend plutôt bien. Mm-hmm. Je l'ai pas encore eu l'occasion de la tester, elle était dispo depuis un moment hein, sur les serveurs bêta, mais je n'y mets pas les pieds. Donc on verra bien ce que ça donne. Ils ont aussi rajouté le L6 Lynx AMR, un fusil de précision calibre 50. Ça fait des gros trous. Du coup, ils ont décidé de mettre que 5 balles avec, parce qu'il faut pas déconner. En revanche, ça va one-shot les motos et les véhicules un peu faiblards, et ça va transpercer les vitres du véhicule blindé qu'on trouve parfois dans le jeu. Ça, c'est une bonne idée, mais alors 5 balles, laissez-le au mec qui sait jouer, quoi. Enfin, moi, j'ai des noms, il y a des gens qui doivent pas être touchés.
Je te confirme, c'est pas pour moi.
Voilà, moi déjà pas dans, voilà, dans un bon jour peut-être, hein, mais encore, ça risque de gâcher, donc bref. Et il y a un nouveau véhicule sur Miramar, qui est un quad qui peut tracer à 110 km heure. Donc vu la gueule de la carte et les cailloux partout sur cette map, je pense qu'il va y avoir des envolées spectaculaires avec des décès à l'arrivée, car oui, hein, on meurt, hein, pour ceux qui ont oublié dans PUBG, quand on saute d'un véhicule en marche ou qu'on se croûte avec une moto, on peut crever. On a eu des exemples assez rigolos, avec toujours des joueurs, enfin voilà, on est une équipe pro-gaming, mais vraiment de haute volée sur Geekzone, on rigole beaucoup. On gagne plus rarement, il faut le dire, on gagne quand même, hein, attention, hein, parce que là, les gens vont finir par croire que vraiment on touche à rien, c'est faux. Mais parfois, on fait vraiment du caca, mais on se marre beaucoup. Et du coup, bah écoute, Spy, bon courage avec le quad. J'ai hâte de te voir à l'œuvre.
Et puis, une news qui va faire plaisir à toutes les personnes d'un certain âge dont nous faisons partie, les amateurs de point and click du siècle dernier.
Du siècle dernier, il faut avoir les cheveux vraiment blancs quand on en a encore.
C'est ça.
Parce que là, on va parler de Ken et Roberta Williams qui reviennent dans le jeu vidéo. Alors là, si vous avez un certain âge, on va dire plus jeune, vous êtes en train de vous dire, mais qui sont ces gens? Ken et Roberta Williams sont des légendes du jeu vidéo, espèce d'inculte. Heureusement, vous écoutez Torréfaction sur Geekzone.fr, ça va bien se passer. Il faut donc remettre les choses dans leur contexte. Ken et Roberta Williams, c'était les fondateurs de Sierra Online, qui est une boîte qui a cartonné, hein, qui a été créée dans les années 60, en 1979, pas dans les années, hein, précisément en 1979, et qui a sorti des jeux jusqu'en 1996, où ils ont revendu le bébé, pris un chèque et se sont barrés en vacances sur un voilier. Ils ont fait des tours du monde, ils ont vécu leur meilleure vie, donc ça fait 25 ans qu'ils glandent Ken et Roberta. Donc voilà, on pensait pas les revoir dans le mode jeu vidéo, parce que bon, c'est quand même un univers où il faut rester un petit peu à la page, etc. Dans plein de documentaires, ils ont été interviewés, alors que c'était soit sur leur histoire à eux, soit sur le jeu vidéo en général, soit sur l'histoire de Machine. Ils ont fait des apparitions dans des trucs sur l'Amiga, par exemple. Il y a vraiment eu beaucoup de fois la question de poser chez les nostalgiques, allez-vous revenir? Et Roberta, qui était vraiment la tête pensante au niveau des jeux, et Ken faisait la partie technique et la gestion de la boîte, disait non, on viendra jamais. Et bien, a priori, bah écoute, sous la douche, elle a eu une idée de jeu vidéo, ça a fait marrer Ken, qui est en train de se marrer avec les outils de chez Unity, qui se dit, mais c'est rigolo de faire des jeux vidéo dans ces années 2020 du futur. Et du coup, ils vont revenir avec un jeu qui devrait sortir en novembre de cette année, mais c'est la date optimiste. Moi, je pense que ça sortira en 2022. Et on verra bien ce que ça donne, puisqu'il y a très peu d'informations sur le bidule. On sait juste que le coproducteur du jeu, c'est un mec qui s'appelle Marcus Maximus Mera.
Okay.
J'ai vu la photo du gars, j'ai regardé le CV du mec, et bon, c'est différent, hein. Il vient pas trop du jeu vidéo, il a été dans le MMA, donc on dira pas trop de mal, parce que sinon on peut mourir, je pense. Il a fait du design de bijoux, des choses comme ça, donc bon, écoute, okay. Nous verrons bien ce que ça donne.
Il a peut-être beaucoup d'argent, en fait.
En fait, bah oui, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça qui les a motivés. Bon, évidemment, je ne vous cache pas que je suis toujours circonspect sur les trucs qui semblent un petit peu surfer sur la vague de la nostalgie, mais Ken et Roberta, à moins qu'ils aient une passion casino bien planquée, avec la thune qu'ils se sont fait, franchement, ils n'ont pas besoin de retravailler, donc...
Non, mais bon, ils sont légitimes, quoi qu'il arrive, puisque c'est quand même quelque part un peu... Enfin, si pas les inventeurs, en tout cas ceux qui ont contribué à la popularisation des point and click. Enfin, moi, je me des Space Quest et King Quest, c'était quand même le top en jeu d'aventure à l'époque. Donc
c'était excellent. Il y a eu dans leur après qui n'était pas fait par eux, mais de leur boîte, il y avait les Police Quest qui ont vraiment fait marrer pas mal de monde.
Quest for Glory.
Ouais, non, il y a du stuff, il y a pas de problème. Les licences sont là, ils ont inventé plein de choses, mais c'est vrai que bon, voilà, on a le droit de se demander est-ce qu'ils vont nous sortir un truc intéressant en 2021-2022. Écoutez, nous en tout cas, avec nos cheveux blancs, on sera là pour voir la gueule que ça. Parce que mon intérêt est piqué, hein, comme on dit. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu curieux de voir ce qui va sortir de cette association un petit peu bizarre.
Et puis on termine le gaming avec des news du côté de Valorant.
Ouais, Valorant, le jeu dont je répète toujours, hein, j'assume que j'en ai dit beaucoup de mal et que j'y joue toujours. qui, du reste, en profite dans ce communiqué pour annoncer qu'ils en sont à 14 millions de joueurs par mois sur PC. Ce qui n'est pas dégueulasse. En revanche, c'est des chiffres Riot, donc c'est invérifiable. Contrairement à des chiffres Steam où on peut directement voir les stats, par exemple. Par comparaison, comme c'est les chiffres Steam, c'est facile. CSGO, c'est 27 millions de joueurs par mois. Donc, ils sont encore largement devant, mais on est quand même, a priori, sur entre 200 et 250 000 joueurs par jour sur la version PC. En tout cas, c'est des estimations au doigt mouillé. N'investissez pas d'argent là-dessus. On n'est pas sûr de nous, quand même. Donc, cette version mobile qui va arriver a été annoncée aujourd'hui, jeudi. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est pour nos Patreons, hein, uniquement. C'était hier pour vous, les gens normaux qui écoutent le vendredi. Et encore plus tard, si vous écoutez plus tard, mais bon, je peux pas tout citer tous les jours, là, faites pas chier. Alors, évidemment, une Valorant qui est un jeu extrêmement e-sport ready, tu vois, précision, une balle dans la tête, t'es mort, etc. Tu te dis ça sur mobile, ça va être compliqué quand même. Alors, d'après les gars de chez Riot, en fait, pas tant que ça. Mais surtout, il n'y aura pas de crossplay parce que restons sérieux.
Il faut pas déconner.
Voilà, restons sérieux deux minutes. En revanche, il n'y aura pas de version console tout de suite. C'est-à-dire qu'ils veulent faire la version mobile d'abord et la version console ensuite. Et il n'y a pas de date pour aucune des deux. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'ils ont l'air de dire que la version console, bah, y a quand même pas mal de taf pour faire quelque chose de vraiment agréable au pad. Alors que la version mobile, ils ont déjà pas mal d'expérience et ils voient à peu près comment ils vont faire pour la gestion des personnages, etc. Donc, parce qu'il y a quand même des pouvoirs dans Valorant, il n'y a pas juste bouger et tirer, donc il y a pas mal de choses à gérer et à intégrer sur un écran de mobile. Je reste circonspect sur un FPS qui est quand même un petit peu musclé. Après, vu le nombre d'heures que je passe sur League of Legends Wild Rift, je le dis pas fort parce que je suis pas très fier de moi. Je sais qu'ils peuvent arriver à faire des trucs qui sont vraiment addictifs et je les remercie pas. Voilà. D'ailleurs, si vous en avez rien à foutre de Valorant mais que vous aimez bien l'animation, allez mater la vidéo qui est dans le billet qui accompagne le podcast, parce que la qualité des vidéos de Riot est toujours aussi plaisante. Donc là, ils ont fait une vidéo sur le lore, sur l'univers du jeu qui présente les personnages, etc. Et pourquoi en fait tout ce petit monde se bastonne. Ils ont créé un truc de toute pièce autour de ça et ça fonctionne plutôt pas mal. Et surtout, c'est vraiment super joli. Je sais pas qui a réalisé celle-là, j'ai pas regardé. Mais on attend toujours d'ailleurs la série League of Legends qui doit sortir à la fin d'année, qui est faite par un studio français qui s'appelle Forti. J'adore leur nom, donc je le dis dès que je peux.
Et on passe du côté des apps. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Ça y est, les temps sorti la version 89 de Firefox avec sa nouvelle interface qui fait déjà couler beaucoup d'encre.
Ah, il y a eu pas mal de trucs autour de Proton, qui est la nouvelle UI de Firefox 89, donc ça devient n'importe quoi les numéros de version dans les browsers, j'aime beaucoup. Proton, si vous faites une recherche Firefox, Proton, vous allez avoir surtout des news, genre comment revenir au truc d'avant, pitié.
C'est ça, les gens n'aiment pas le changement.
Voilà, mais c'est voilà, c'est une cata. Alors franchement, du coup, je suis pas ultra souvent en ce moment sur Firefox, donc je l'ai réinstallé partout, j'ai évidemment fait mes mises à jour, etc. Et je l'utilise depuis la sortie pour voir la gueule du truc. Ça va, les gars. Détendez-vous. Ça marche. Effectivement, le truc qui crispe le plus les gens, c'est que maintenant, il n'y a plus l'interface compacte qui était disponible avant. En tout cas, dans les menus. Mais on peut la, en bidouillant, la faire revenir. Et puis, les onglets qui sont détachés, en fait, de la barre du haut, qui sont des petits cadres, en fait, des rectangles, et qui sont plus attachés à la fenêtre principale. Donc, du coup, c'est plus vraiment des onglets comme on a l'habitude de les voir.
Ouais.
Bon, j'ai envie de te dire, on s'en fout pas mal, en fait. Hein. T'es vite habitué. Et puis, quelque part, par rapport à la gestion des onglets, la façon dont on a de servir d'un browser maintenant, on les déplace régulièrement de droite à gauche, on les reclasse, qu'on essaye de retrouver nos petits, tu vois. Bon, je suis pas certain qu'effectivement le fait de l'avoir attaché à la fenêtre était quelque chose de vraiment d'indispensable. Ce qu'il faut, c'est voir vraiment tout de suite lequel est actif. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, moi personnellement, ça m'a pas choqué, et le truc qui m'a vraiment fait plaisir en revanche, c'est que les menus contextuels et les menus qui sont dans la barre avec les trois, le menu burger là sur le côté, c'est enfin natif tout ça sur macOS. Ça fait 17 ans qu'on attend, je crois. Je rigole pas, hein. C'est un bug qui fait, ça fait 1000 ans que le truc était dans la base de Mozilla et les mecs étaient là genre, oui, oui. voilà, maintenant quand on fait clic droit sur macOS dans une fenêtre Firefox, on a enfin le vrai menu contextuel de macOS et pas un truc chelou qui d'ailleurs faisait jamais ce que tu voulais à l'époque. Donc rien que pour ça, la version 89 sur macOS, c'est oui, merci beaucoup.
Ouais, moi le seul truc qui me fait un peu chier avec cette nouvelle version de Firefox, c'est sous Windows, en fait, cette sale habitude qu'on, enfin, cette sale habitude. Oui. Moi j'appelle ça cette sale habitude qu'ont plusieurs apps de refaire leur propre interface, leur propre UI en fait, par-dessus celle de Windows. Ce qui fait que du coup t'as des applications qui sont pas du tout normalisées, il n'y a pas du tout de cohérence dans ton interface, ton OS, et c'est vraiment très très pénible. Et jusqu'ici Firefox utilisait l'interface de Windows, maintenant ils sont passés sur la leur, et ben voilà, du coup ça casse tout, et ah moi ça m'emmerde.
Ouais, parce que personne respecte rien, si tu ouvres un Spotify, tu regardes
Discord, un Telegram, il y a rien qui ressemble à rien.
Ah oui, tout le monde fait sa life en mode genre, bah non, moi je vais plutôt faire comme ça. Alors c'est bien effectivement d'avoir les coups des franches et de pouvoir se faire plaisir, mais c'est vite moche. On a effectivement moins le problème sur macOS. Sous Linux, ça dépend un petit peu de ce que tu fais, vu que tout le monde fait ce qu'il veut. C'est même au niveau de l'OS lui-même, déjà c'est la fête du slip. En revanche, ça sera intéressant de voir ce que Microsoft va proposer, parce qu'il y a une grosse conférence qui va arriver cet été, où normalement ils vont dévoiler les grandes lignes des évolutions de Windows 10. Ça concerne justement des trucs qu'on a vraiment sous le pif sans arrêt, c'est-à-dire le design de la bestiole, où on espère que bah justement ça va un petit peu aider à normaliser tout ça, parce qu'apparemment si les gens aussi font ça, c'est parce que les outils en tout cas leur conviennent pas. Alors évidemment c'est toujours un peu facile de dire ça, hein, mais en tout cas moi ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément d'applications aujourd'hui qui effectivement font ce qu'ils veulent, même dans le design, j'en ai vu plein, enfin voilà, la suite Adobe, ils font des trucs chelous aussi, bon, on verra bien ce que ça donne. Moi voilà, je m'énerve plus contre Firefox quand ils font ça, puisque tout le monde le fait, donc
oui, bah oui.
On verra bien ce que ça donne, mais voilà, on se tient en courant cet été avec la conf Microsoft, peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles de ce côté là.
Il serait temps. Allez, on passe du côté de la culture et tu vas tenter de battre un record puisque tu vas nous parler de K-pop en moins de 30 secondes.
Oui, parce que j'ai décidé de faire un truc qui en est très long et là, vous vous dites, on est quand même pratiquement à la moitié du podcast et vous ne savez pas ce que j'ai sous les yeux au niveau de la tech avec tous les trucs qui ont été annoncés au Computex et cette semaine.
Il y a de quoi faire.
Voilà, donc je voulais vous parler de la sortie d'un nouvel album de Mamamoo. Mamamoo, c'est mon groupe préféré. Alors, ça fait rire tout le monde parce qu'en français, Mamamoo, ça fait bizarre un petit peu. Tu vois, le nom est pas ouf. En revanche, ça fait 7 ans maintenant que ce groupe est sur la scène de la musique coréenne et ça cartonne de fou. Ce sont les 4 idols de K-pop, mais bon, moi c'est plus des artistes chanteuses maintenant, hein, si tu veux. Ils ont passé le statut de l'idol depuis un petit moment. C'est le groupe qui rassemble les 4 vocalistes, on va dire, les plus complémentaires qu'on ait sur le marché. J'aime pas trop dire meilleur parce que bah, y a quand même un petit peu de monde sur le marché, même juste en Corée, ils sont 50 millions, mais je sais pas, ils doivent leur donner un lait spécial. Et du coup, le résultat est toujours intéressant. Et là, c'est un album un peu particulier parce que c'est l'album pour fêter les 7 ans du groupe et du coup, nous sortir un truc que de ballades et de chansons un petit peu sentimentales, remercier les fans, etc. Et puis, bah, profiter du fait qu'elles ont des voix incroyables et de faire très plaisir aux fans de ce côté-là. Mais comme c'était super long, déjà là, je suis trop long, je vais vous faire un petit truc spécial pour nos abonnés Patreon où je vais parler du groupe et je mettrai des extraits un peu de la progression. Je vais essayer de faire une vraie petite émission. Je vais essayer de faire ça ce week-end et si je l'ai pas sorti ce week-end, eh bien, vous pourrez m'insulter sur le forum et sur Patreon. C'est gratuit. Faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer de l'argent et me remercier de pas le faire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas du tout pressés. Et ça vient un peu, c'est la psychologie inversée.
C'est une bonne idée, ça, ouais.
Et mais bon, j'ai pas envie. Voilà, moi, tu sais, j'aime pas assez l'argent, je suis bête. Hein. On verra.
Le mec super méchant, tu sais, vous voulez moins de K-pop, payez un abonnement Patreon.
Alors que là, c'est tellement de la meilleure K-pop que tu puisses trouver. Oh là là.
Allez, on reste dans la culture. Enfin, pas pour tout le monde. Certains pensent que ça n'en est pas, mais moi, j'adore. C'est la nouvelle série Marvel Studios qui débarque mercredi sur Disney+. C'est la troisième série Marvel Studios déjà, après WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Et c'est une série autour de Loki. Et là, vous allez me dire, mais Loki, il est pas mort, hein? Bah si, en fait, il est mort. Sauf que dans Endgame, souvenez-vous, il y a un Loki dans une timeline alternative qui se barre, en fait, avec le Tesseract. Et c'est ce Loki-là, en fait, qu'on va retrouver. Donc, je vous en dis pas plus. On en avait déjà parlé en long et en large dans les clairvoyants. Juste rappeler, donc, que la sortie de la série est prévue pour mercredi. Donc, si on se fie aux sorties précédentes, ça devrait être 9h du matin pour le premier épisode. Alors, il y a 6 épisodes prévus d'environ 45 à 55 minutes. C'est supervisé par un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Waldron, qui est un scénariste sur Rick et Morty et qui signe aussi en ce moment le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc voilà, un monsieur qui a signé un gros contrat avec Disney sur plusieurs projets. Il travaille d'ailleurs déjà sur une saison 2 pour Loki, série donc dans laquelle on retrouve Tom Hiddleston dans le rôle de ce Loki alternatif, mais aussi Owen Wilson qui joue le rôle d'un monsieur qui s'appelle Mobius M. Mobius et qui est en fait un analyste de la Time Variance Authority, donc la TVA. C'est une sorte d'organisation qui est chargée de surveiller qu'on ne fout pas trop le bordel dans les timelines. Ça tombe mal puisque c'est exactement ce que Loki est en train de faire. Et alors, petite anecdote par rapport à ce personnage de Mobius M. Mobius, c'est dans les comics en fait un personnage qui ressemblait toujours à un éditeur qui s'appelait Mark Gruenwald, qui était en fait le monsieur qui était chargé de superviser la continuité de l'univers Marvel, donc vérifier qu'il n'y ait pas des choses qui se contredisent. Et du coup, ils ont créé dans les comics cette institution qui s'appelle la TVA et auquel est relié d'une certaine manière Mark Gruenwald. Je trouve le clin d'œil assez sympa. Donc voilà, ça commence mercredi et puis bon, on en reparlera en long large dans les clairvoyants dans le prochain épisode qui devrait sortir, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Et puis je voulais terminer cette section culture en vous annonçant la sortie d'une édition spéciale pour les 20 ans, en fait pour les 21 ans si on veut être précis, de l'album Since I Left You des Avalanches qui était sorti en 2000 tourons. C'est un album sur lequel je vais pas revenir en longueur parce que soit vous le connaissez et vous savez ce qu'il vaut, soit vous n'en avez jamais entendu parler. Je vous invite à aller l'écouter parce que c'est un vrai milestone, comme on dit dans l'histoire de la musique. Un album qui avait été composé à l'époque à base exclusivement de samples. D'ailleurs, ils ont eu pas mal de problèmes parce que l'album est sorti en Australie, puis au moment où ils ont voulu attaquer le marché international, tout à coup on s'est dit le sample de Madonna là, ça va pas être possible. Donc il a fallu qu'ils revoient leur copie, soit qu'ils essaient de clearer les samples, soit de les remplacer, etc. Donc il y a deux versions de l'album qui existent, et aujourd'hui donc ils sortent une édition de luxe, a priori remasterisée, et avec un deuxième CD avec des remixes. Il y en a pas moins de 21, si je dis pas de bêtises, avec quand même quelques grands noms comme le regretté MF Doom. Il y a aussi un remix d'Andy Vautel, un remix de Carl Craig, de Stereolab. Bref, il y a du beau monde sur ces remixes. Donc voilà, si vous étiez fan du premier album, jetez-vous sur cette édition de luxe. Et puis si vous n'en aviez jamais entendu parler, foncez les yeux fermés, vous pouvez me faire confiance, c'est vraiment du tout bon. Et pas d'extrait cette semaine parce qu'on est déjà très long. On passe du côté de la tech et on commence par des news du côté de chez nos amis de Huawei.
Ouais, oh là là, c'est long. On a tellement de choses à dire aujourd'hui, Fasquille. Alors Huawei, on va essayer d'aller vite parce que ils ont fait une grosse annonce cette semaine pour présenter Harmony OS. C'était vraiment le truc que tout le monde attendait. Huawei aura son propre operating system. C'est devenu des adultes. Ça va être génial. Et en fait, ils se foutent vraiment de nos notre gueule. Parce qu'en fait, rien ne change par rapport à ce qui existait avant. C'est juste qu'il y a eu une grosse opération marketing et de rebranding de plusieurs trucs qui existaient déjà. Donc, Harmony OS sur smartphone, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un fork d'Android avec un kernel Linux. Donc, c'est une version d'Android comme avant, avec des applications qui vont fonctionner comme avant et toujours pas de trucs Google Inside parce qu'ils ont pas le droit comme avant. Donc, de ce côté-là, ça ne change pas du tout. C'est assez simple. Du côté de ce qui est smartwatch et autres IoT, ils avaient un truc maison qui s'appelait LightOS. C'est un soft open source qui leur permet évidemment de s'installer sur des trucs qui ont moins de puissance pour accueillir Android, donc du coup ils évitent. Et maintenant ça s'appelle Harmony OS, mais en fait c'est toujours LightOS aussi. Donc voilà, c'est pareil, ça ne change pas. c'est ce qu'on appelle une opération de communication. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que quand tu as deux trucs qui s'appellent Harmony OS, quand tu poses une question, quand tu es journaliste et que tu dis « Mais alors, Harmony OS est basé sur Android ?» Eh ben les mecs peuvent te dire « Mais non, pas du tout, il n'y a pas une ligne de code d'Android. » Mais parce qu'en fait, tu sais pas duquel il parle. Le mec, donc, il te ment pas forcément. Je vous ai linké une petite news assez vénère de Ars sur le sujet qui suit de très très près Harmony OS depuis l'annonce de la bêta et qui a bien senti le foutage de gueule arriver. Ça y est, on est en plein dedans. Donc, écoutez les amis, je pense qu'on va continuer à se moquer de... pendant un moment, surtout qu'en plus ils ont annoncé des nouveaux produits là directement sortis de la photocopieuse Apple, donc au niveau du design c'est toujours aussi non inspiré du coup. Je suis pas certain que c'est comme ça qu'ils vont réussir à reprendre des parts de marché.
Allez, on attaque le gros morceau de ce podcast avec les annonces du Computex, et là je vous recommande d'aller faire pipi avant d'écouter la suite ou alors de prendre un café, mais en tout cas on est parti pour un long tunnel là.
Ouais, est-ce que le Computex, les gars, il se passe des trucs en même temps, hein, c'est un peu le 3 de la tech, donc forcément il y a 2-3 annonces et puis là il y a des gens qui ont un petit peu profité pour balancer l'artillerie lourde. Je vais parler que de deux marques et j'ai déjà 6 trucs à présenter. Voilà, au secours.
Ils sont chauds chez AMD en tout cas.
Voilà, donc AMD et Nvidia ont fait un paquet d'annonces. On va commencer par AMD qui était très très chaud effectivement. Alors la première annonce est la moins intéressante, mais il faut en parler. C'est qu'AMD sort enfin ses GPU mobiles avec du RDNA2 dedans. C'est la nouvelle architecture graphique, hein, celle qui est dans les dernières cartes de la marque. Donc on a maintenant les RX 6800M, 6700M, 6600M qui sont dispo. Ça se veut en fait des puces graphiques pour vos ordinateurs portables qui ne vident pas la batterie dès que vous lancez un jeu. En gros, ça sera toujours un peu moins puissant que les équivalents de chez Nvidia. En tout cas, évidemment, si je le dis comme ça, AMD ne va pas être content, mais je pense que quand il y aura des tests, c'est ce qui va se passer. En revanche, le but, c'est d'avoir quelque chose qui chauffe moins, qui consomme moins, qui donc permet d'avoir une meilleure autonomie sur les portables de gamers. Donc on verra bien la gueule que ça a au final, mais c'est évidemment pas des solutions aussi économiques en termes d'énergie que les systèmes on chip, mais c'est ce qui permet d'avoir le meilleur trade-off entre puissance et qualité d'image. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais bon, on les a attendues un grand moment, donc j'espère qu'elles sont à la hauteur. Dans la foulée, ils ont annoncé toujours du RDNA2, donc toujours en nouvelle architecture, dans les prochains systèmes on chip Exynos de Samsung. J'en ai déjà parlé, la rumeur était déjà quasiment actée. Mais voilà, donc là maintenant c'est fait, je vous ai linké une news complète de chez Anantech sur le sujet. On sait uniquement qu'il y aura du variable ray shading et du ray tracing dans vos prochains téléphones Samsung si tout se passe bien avec ce genre de système on chip, ce qui est une bonne nouvelle, hein, fondamentalement. C'est des technologies qui sont intéressantes, mais évidemment on n'a pas d'infos sur quand, à quel prix, combien ça va consommer, etc. etc. On sait juste que ça va arriver, voilà, merci beaucoup les gars. Au niveau des dates, il reste un petit peu évasif, et j'ai envie de dire je les comprends, hein, parce que je vais pas vous refaire la météo des cartes graphiques tout de suite, on y vient, mais du coup ils savent pas non plus quand est-ce que ça va sortir d'usine, quand est-ce que ça sera prêt techniquement. Il y a quand même quelques inconnus, j'imagine, sur leur planning. Ensuite, on enchaîne toujours chez AMD, mais là, du côté de chez Tesla, parce qu'ils font des partenariats partout. Là, on était chez Samsung. Là, on va chez Monsieur Tesla. Vous allez me dire, mais pourquoi faire ?
On n'en est pas déjà parlé, tiens, de ça, d'ailleurs, il me semble.
Pas de cette manière-là, en tout cas. Il y avait des rumeurs, mais là, maintenant, c'est acté. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes on-chip Ryzen et des puces RDNA2, mais des GPU complets, en fait, dans le nouveau système d'infotainment de Tesla. Donc, on se retrouve avec une P5 quasiment, ce qu'ils annoncent 10 teraflops dans une caisse à 80 000 $ de base qui joue des jeux. Enfin, tu vois, t'as envie de te faire une partie de cyberpunk vite fait quand t'as garé ta bagnole ou comment ça se passe, tu vois.
C'est pour aller plus vite sur l'internet.
Mais je voilà. Alors autant évidemment avoir un système d'infotainment qui ne rame pas, c'est une bonne nouvelle. Mm-hmm. Mais mettre autant de puissance dedans, je suis assez surpris. Alors attention, hein, parce qu'évidemment il y a une petite opération de com aussi dans l'histoire. 10 teraflops, c'est quand ils additionnent la puissance de la puce graphique qui est dans le système on chip plus la puce externe en fait graphique. Il y en a deux. Oui, okay. Parce que voilà, pourquoi pas. Qui peut le plus, je peux le moins. Puis genre à ce prix-là, ils peuvent rajouter un processeur, il n'y a pas de souci. Apparemment, ils sont en train de redévelopper beaucoup de choses au niveau software aussi. On verra bien ce que ça donne. Alors évidemment, je sais que on n'a pas énormément d'auditeurs qui vont se précipiter pour aller acheter une Tesla pour pouvoir jouer dedans. Mais je trouve le truc un petit peu intéressant. Donc on suivra ça parce que techniquement, c'est quand même rigolo. Et en parlant de technique, le dernier truc côté software dévoilé par AMD pendant ce Computex, c'était l'arrivée du Fidelity FX Super Resolution. Tadadam ! J'adore ces noms. Le FSR, pour faire beaucoup plus simple, c'est un truc qui était attendu depuis un moment, enfin qui est toujours attendu techniquement, vous allez comprendre. C'est une solution concurrente du DLSS de Nvidia, c'est-à-dire que le but, c'est de calculer une image sur une résolution inférieure à ce qui est censé être affiché par votre écran, mm-hmm. pour ensuite l'upscaler de manière logicielle pour pouvoir en fait gagner en puissance, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de pas avoir à calculer chaque pixel dès le début et de pas se retrouver avec un truc qui ramouille parce que vous avez acheté un écran beaucoup trop grand pour votre carte graphique, un Fastkill.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Du coup, c'est une techno qui est assez intéressante. Le DLSS, on le présente plus, ça marche extrêmement bien. C'est quelque chose qui même permet vraiment d'avoir une image d'une super qualité malgré ce trick entre guillemets sur beaucoup de jeux. En fait, quand c'est bien géré. En revanche, il faut que les jeux gèrent la techno. Ça, c'est pas magique. C'est pas genre t'actives un truc dans le driver et hop, ça marche. Donc, il faut que ça soit intégré directement. Là, la bonne nouvelle, il y en a plusieurs, mais vous allez voir, il y a une grosse inconnue. Donc, déjà, la bonne nouvelle, c'est que toutes les cartes quasiment depuis 1000 ans de chez AMD sont supportées.
D'accord.
Donc le DLSS, pour rappel, il faut avoir une carte de la génération RTX pour que ça fonctionne, puisque ça utilise les nouvelles capacités de la carte pour faire ses petits calculs dans son coin sans pénaliser les performances. L'autre truc intéressant, surprenant même, c'est que finalement ça marchera aussi sur les GeForce, le FSR. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, quand tu peux pas les battre, tu vois, tu les forces à venir en fait.
C'est ça.
C'est très très malin, puisqu'en fait c'est basé, ça va être une techno open, comme pas mal de trucs d'ailleurs chez AMD, c'est-à-dire que les mecs arrivent après et puis ils font genre, mais oui, mais on le donne à tout le monde gratos, et puis y a rien à payer. Là, 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 tu sais, on doit, ils regardent en coin Nvidia, genre. ils ont fait pareil avec le FreeSync, si tu te rappelles, pour la synchronisation. Les écrans avec ta carte graphique avec un résultat plutôt correct. Franchement, c'est une méthode intéressante. Encore une fois, vous allez voir, il y a quand même une inconnue dans l'histoire. Mais du coup, comme ça va être gratos, ça sera aussi dispo sur les PS5 et les Xbox Series S et X normalement, si tout se passe bien, puisque ça devrait fonctionner sur la partie graphique qui sont intégrées dans les systèmes on chip de ces consoles. Et pour finir, on sait aussi que Epic bosse à l'intégration d'une technique équivalente dans le Unreal Engine 5, ce qui est une bonne nouvelle toujours. Et voilà, on est là pour gagner des frames par seconde, les gars. Nous, moi, ça me fait plaisir, hein, ce genre de truc.
Écoute-moi, si ça peut me permettre de faire tourner ma 970 un petit peu plus vite, je ne crache pas dessus.
Alors, ouais, ils ont fait une démo assez rigolote, puisqu'il y avait la 1060 qui était présentée avec cette techno-là, qui passait genre de 40, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était genre de 45 à 70 images secondes, tu vois, un truc comme ça.
C'est pas mal.
Donc c'est toujours bon à prendre, surtout quand tu fais ça sur la techno concurrente. Pourquoi ils ont choisi cette carte? Parce que c'est une des plus populaires sur Steam. Mm-hmm. Donc c'était assez intéressant. Donc maintenant, l'inconnu du bordel, c'est qu'on sait pas du tout quelle qualité ça a en vrai. Ouais, c'est-à-dire pour l'instant, on sait pas du tout si ça va vraiment massacrer l'image ou pas. Il y a plusieurs modes, en fait, qui seront disponibles dans les jeux qui supportent le truc. Tu pourras choisir de vraiment donner la priorité à la qualité d'image ou de donner la priorité au frame par seconde. Mais tu pouvais, ou alors évidemment de trouver un juste milieu, on va dire, parce que tu auras quand même plusieurs réglages possibles. Ça sera disponible normalement le 22 juin, mais pas sur énormément de jeux, en tout cas pas énormément de gros titres. La présentation était faite sur Godfall, alors autant vous dire que, bon, oui, visuellement c'est intéressant, mais je crois que personne y joue, hein. Enfin voilà, ça n'a pas été le gros carton. On verra bien ce que ça donne. Moi, je suis quand même intéressé. Et dernière annonce AMD sur ce Computex, le 3D VCache, un nom beaucoup plus simple pour une techno qui est pas triviale du tout, en fait, qui est développée en en duo avec TSMC. Mm-hmm. Le but du jeu, c'est d'empiler les couches. Tu sais, voilà, d'empiler en fait les CPU, mm-hmm. D'empiler les CPU, les RAM, n'importe quoi. C'est-à-dire que historiquement, quand tu veux mettre plusieurs modules sur une petite plaquette de silicium, bah faut que tu les mettes côte à côte, tu vois, pour que ça tienne. Maintenant, on a des nouvelles techniques pour les mettre les unes sur les autres. Le premier truc qu'ils ont pensé à développer avec ça, c'est booster la mémoire cache de leur CPU Ryzen. Donc, il y aura du 3D V-Cache dans les Ryzen 3, puisqu'a priori, c'est ce qui est annoncé chez eux. Je vous ai linké un énorme papier extrêmement complet de chez nos amis, de chez Anantech. Alors, il est très complet, parce qu'en plus, ils ont pris pas mal de présentations qui expliquent et qui retracent un petit peu l'histoire du ce qu'on appelle le multi-packaging, les chiplets, etc. C'est des trucs qui sont en évolution constante depuis 2015. Et là, avec ce système de stacking, c'est très, très intéressant, parce que ça permet de mettre une mémoire cache qui est externe, je fais des guillemets à côté de mon micro comme d'habitude, qui en fait va extrêmement vite, on parle de 2 Tera par seconde, et du coup on passe pour les plus gros CPU de la gamme de 64 mégas de mémoire cache à 192 mégas. Et le résultat c'est que on a vraiment un CPU qui a tout le temps du monde de stocker des instructions dans cette mémoire cache. Je vais pas vous refaire tout l'historique des instructions out of order. En fait, les CPU modernes en x86 essayent de prédire l'avenir, tu vois, ils lisent dans le futur en disant tu m'as fait faire cette opération là, tu veux certainement ça après. Et généralement, ils font plein de possibilités. Et quand il y a ce qu'on appelle un miscache, quand finalement le truc ne s'est pas déroulé comme prévu, il faut reprendre toute la boucle du début. Donc tu perds beaucoup de temps, donc tu perds de la performance. En revanche, si tu peux mettre dans le cache encore plus de possibilités, c'est un exemple, hein, dans le cache, vous pouvez mettre encore d'autres trucs, et ben du coup, tu peux gagner en perf très, très, très violemment. En tout cas, à l'échelle du CPU, parce que évidemment, d'habitude, quand on vous parle de gaming, on parle tout de suite de carte graphique, en vous disant oui, le CPU c'est important, mais c'est pas non plus le truc le plus vital. Ça le sera jamais, mais là, on est en train de parler de gains qui peuvent aller jusqu'à 20% dans certains cas, pour du jeu vidéo, si tu veux. Mais évidemment, pour les pros, ça sera encore plus intéressant. Donc, c'est vraiment hyper hyper sexy. Les dates annoncées, c'est... parce qu'au début, moi, j'ai cru que c'était vraiment que des démos. En fait, je pensais qu'on allait attendre un grand, grand moment avant d'avoir ça. J'ai lu dans différents articles que finalement, non, c'était prévu pour une production sur les N3 en 7 nanomètres. Mais les dates sont encore un petit peu fluctuantes et pas extrêmement claires du côté d'AMD. Mais on parle du premier trimestre 2022, en fait. Donc, ça serait après-demain. Hein. Enfin, d'un point de vue technologique, c'est vraiment pas longtemps. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir les premiers tests. Mais en tout cas, ils ont l'air très, très sûrs d'eux et ils ont mis des petits taquets à la techno concurrente qui est développée par Intel, qui est effectivement moins intéressante même sur le papier. Donc voilà, ça leur permettra en plus de garder toujours une petite marge d'avance sur leurs concurrents adorés. Écoutez, la suite au prochain numéro, comme on dit, surtout s'ils arrivent à les fabriquer, ça serait bien aussi déjà.
Et puis on va passer du côté de Nvidia, qui a fait des annonces aussi. Alors ça me fait beaucoup rire, parce que je me dis qu'ils en sont à un stade aujourd'hui au niveau des cartes graphiques, ils pourraient faire des annonces de nouvelles cartes tous les jours, qui n'existent pas, en fait, personne s'en rendrait compte de la supercherie.
Ah ouais.
Alors on a sorti la 3074 TIX, hein, qui...
Ah ouais, franchement, je ferais des webcomics, j'inventerais des cartes les jours, je ferais des cartes comics. Comme tu inventes les super-héros, j'inventerais des cartes graphiques.
Avec des taglines du style, elle est vraiment très bien, mais il n'y en a pas.
Voilà, elle aura des aventures et tout. Non, tu vois, on peut faire des trucs de ouf.
On s'occupe comme on peut quand on ne peut pas jouer.
Ouais, c'est ça. Donc, je vous annonce qu'effectivement, les 3080 Ti et 3070 Ti sont disponibles, ont été annoncés en fait au début de semaine pour une disponibilité pour les 3080 Ti. Le 3 juin, donc aujourd'hui, nous qui enregistrons le podcast et vous autres Patreons d'amour, et donc hier pour les gens normaux, mais on est vraiment sur des cartes qui sont extrêmement prometteuses, qui envoient du pâté, hein, y a pas de problème, on est hyper content que ça soit disponible, merci beaucoup à Nvidia, enfin que ça soit sorti, pardon.
Faire attention,
le lapsus, mais on a plusieurs problèmes, je vais parler tarifs tout de suite, hein, parce que là, voilà, le loup va sortir du bois, ça va être instantané. Le tarif américain, c'est 1 200 $ pour la 3080 Ti. Ils ont pris un peu leurs aises, hein, par rapport à ce qui était les tarifs de la 3080 normale, pour plusieurs raisons, je vais y revenir. Mais c'est surtout que là, cette fois, ils savent que de toute façon, ils ne pourront pas satisfaire la demande, quoi qu'il arrive. Donc, autant aller se faire de la marge tout de suite, hein, pas laisser tout au scalper et compagnie. Mais moi, j'ai regardé un petit peu en magasin aujourd'hui. Les cartes qui sont arrivées, qui ne sont pas des Founder Edition, mais qui sont des quart de leurs partenaires. On est déjà à plus de 2000 euros quasiment partout, les
amis. Mais mon Dieu, quoi.
Et attention, hein, plus de 2000 euros et avec le bouton genre clique pour savoir quand est-ce qu'il y en aura, monsieur, parce que là, non, c'est mort. Donc, non, c'est hyper chiant. En vrai, on atteint des tarifs complètement ridicules. On était contents des nouveaux tarifs, rappelez-vous, quand la 3080 est sortie.
Bah, ouais.
Voilà, j'ai envie de... Tu peux mettre une vieille chanson, là, tu vois, qu'il est beau, le machin. Non, il y a plein de vieux chanteurs qui chantaient la nostalgie aussi. Très, très bien, vraiment.
Simon & Garfunkel, on va
aussi,
mettre ça.
Voilà. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mais c'est vraiment chiant, bordel. Alors, techniquement, c'est super bien, il n'y a pas de souci. Je vous ai linké tout un tas de tests qui sont déjà sortis, qui sont déjà disponibles pour la 3080 Ti chez Eurogamer, Impact Hardware, Ars Technica. Tout le monde dit la même chose. C'est très bien, mais est-ce que ça vaut son prix? Et surtout, est-ce que vous en avez besoin? Ce qui est une question qu'on oublie souvent de se poser, finalement. Hein. Donc, je vous demande pas de rester à une 970, n'est-ce pas? Mais il y a des justes milieux, c'est-à-dire que globalement là, à part pour les vraiment les mecs qui veulent absolument jouer en 4K, c'est pas forcément l'investissement de l'année, ça coûte quand même un bras. Il y a quand même au niveau hardware des trucs à dire sur la 3080 Ti, c'est qu'on est beaucoup plus proche de la 3090 en fait que de la 3080. Du coup, le prix se justifie aussi dans la mesure où ils en ont tellement mis dans la carte que si tu veux pas flinguer le marché de ta 3090, tu peux pas non plus baisser trop les prix, entre guillemets, tu vois.
Ouais.
Donc on se retrouve avec une carte qui n'a que, entre guillemets, 12 gigas de RAM. Je rappelle que sur la 3090, c'est 24 gigas, ce qui est plus intéressant pour les professionnels. Et la 3080 est à 10 gigas, donc il y a que 2 gigas en plus. Voilà, 12 gigas sur une carte graphique. Dans quel monde vit-on, je vous le demande. Mais on est vraiment sur des performances qui sont assez violentes. Pour vous donner une idée de l'évolution sur les cœurs RT, par exemple, ou les Tensor Core, on est à 80 sur les cœurs RT contre 68 sur la 3080 et 82 sur la 3090. Il y en a que deux d'écart. Sur les Tensor Core, on est à 320 contre 328 sur la 3090. En revanche, la RTX 3080, on n'en a que 272. Donc, très clairement, le 3080 Ti, c'est vraiment un petit frère mal né. C'est presque une 3090 qui a pas passé certains tests, tu vois. Ce qui serait pas très très étonnant. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose qui, en termes de performance, va être intéressant. En revanche, le gain en jeu n'est pas oufissime par rapport à la 3080. On n'est pas sur le bond qu'il y avait eu entre la 2080 Ti, par exemple, la 2080, si je ne dis pas de bêtises. Donc, allez décrypter tout ça discuter avec votre banquier aussi, hein, avec les liens que j'ai mis dans le billet qui accompagne le podcast. En revanche, soyez bien conscient d'un truc, c'est que ça ne sera effectivement pas dispo à des prix corrects, c'est-à-dire les prix annoncés, avant très longtemps. Vous avez peut-être une chance de choper des Founder Edition quand il y a des restocks, mais il va falloir mettre toutes les alertes de la Terre sur des bots Discord, des alertes sur vos sites, etc. et massacrer votre touche F5, parce que ça va pas rester en ligne très très longtemps, même à ces tarifs-là. Oui, il y a des gens qui ont des priorités et plus d'argent de vous, peut-être, enfin en tout cas que moi en ce moment. Donc, mes priorités ne sont pas dans la 3080 Ti là tout de suite. Et on verra la semaine prochaine ce que donne la 3070 Ti, qui devrait être sur un rapport qualité-prix quand même plus intéressant. Là encore, ça va être un step-up assez sexy, mais elle va être encore moins en stock, puisqu'elle va être techniquement plus abordable. Le prix officiel de la 3070 Ti, c'est $600. Autant vous dire que ça n'existera pas. On annonce une carte qui sera 1,5 fois plus performante qu'une 2070 Super, et avec 8 gigas de mémoire. Donc on est vraiment sur un... Voilà, ça envoie du pâté. C'est-à-dire que si un journaliste belge pouvait en choper une, il serait très content.
Tu m'étonnes.
Mais...
À ce prix-là, quoi.
Bah voilà, c'est-à-dire que globalement, il faudrait rester sur les tarifs annoncés, ce qui va être encore une fois extrêmement compliqué. Donc on verra bien. Mais bon, je ne vous refais pas, comme je disais tout à l'heure, la météo des cartes graphiques, elle est toujours aussi dégueulasse. Les annonces sont toujours les mêmes en termes de délai pour la normalisation du marché, c'est-à-dire que ça sera toujours la merde jusqu'en 2022 voire 2023. Donc de ce côté-là, il y a pas de miracles qui vont arriver. En revanche, on espère que avec les protections anti minage de cryptocurrency, n'est-ce pas, les crypto-monnaies du cancer, on espère que ça va un petit peu calmer en tout cas la demande sur ces nouvelles cartes, car ces nouvelles cartes ont des protections un peu plus violentes pour baisser en fait leur intérêt pour les mineurs d'Ethereum particulièrement. J'espère que ça sera efficace, mais le problème, qui a déjà été relevé par certains dans la presse, c'est que même avec ces castrations artificielles, ça reste des solutions qui sont plus intéressantes que plein de trucs concurrents. Donc, bon, voilà, je suis pas certain que ça soit ultra efficace. On verra bien, on se tient au courant. En tout cas, les tests de la 3070, ça devrait être autour de la semaine prochaine ou celle d'après, si les mecs sont un petit peu lents.
Allez, ça faisait longtemps, on termine avec un rant.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Ah là là, un petit rant vite fait, parce que je voulais vous dire qu'il y a des gens qui font du clic en ce moment.
Ça
avec voilà ça, quelle surprise, avec une espèce de faux problème qui s'appelle Miracle, Miracles en anglais, qui est en fait une faille qui toucherait les nouveaux processeurs extraordinaires d'Apple, les M1. Donc tu vois, il y a des gens qui sont très bien, on va pouvoir dire du mal des M1 d'Apple tout neuf, ça va être génial, on va faire du clic. Alors que le mec qui a détecté le truc et qui est quand même à l'origine de tout le bordel, hein, on va dire ça comme ça, s'est fendu d'une page web entièrement dédiée à ce truc-là, qui est disponible évidemment sur miracles.com avec un 1 à la place du i. Je vous ai linké ça dans le billet qui accompagne le podcast, et tout en haut du truc a marqué « Est-ce que vous devriez être inquiet ?» Probably not. Donc voilà, le mec explique exactement ce que c'est, pourquoi c'est réel, pourquoi techniquement oui c'est une faille, et pourquoi on s'en fout en fait. Évidemment, ça n'a pas empêché énormément de monde de faire des news en mode genre « Oh là là, c'est quand même pas de chance, et puis c'est pas patchable, oh là là, les pauvres Apple. » Non, on s'en fout les mecs. On s'en fout. En revanche, on est content pour vos clics. Hein. Mais voilà, allez lire ça. Comme ça, quand vous aurez quelqu'un qui viendra vous dire « Oh bah t'as vu, avec le vaccin, on a la 5G, puis en plus, ça fait des failles dans le M1 ». Non, les mecs, arrêtez de raconter n'importe quoi. Documentez-vous, lisez et restez tranquille. En fait, cette faille, on peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on peut dire que effectivement, elle sera jamais exploitée et il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau-là. Ça les empêchera pas de la patcher s'ils peuvent, hein, mais c'est des problèmes qu'on a déjà vus sur les autres CPU qui sont vraiment liés parfois à la conception même de l'architecture. Mais encore une fois, les mecs disent que si c'est exploitable, c'est que déjà les mecs, ils ont la main sur ta machine et ils ont eu le temps d'installer des trucs beaucoup plus pratiques que cette merde. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour rien, tout se passe bien. Et en tout cas, si vous ne connaissiez pas cette faille et que vous voulez une lecture technique, mais néanmoins amusante, vous pouvez aller voir le site que je vous ai linké.
Et c'est la fin de ce 181e épisode de Torréfaction. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous soutenir et nous aider à la production de podcasts. Et puis comme ça, vous pourrez écouter le merveilleux billet que va vous faire Caféine ce week-end, n'est-ce pas?
Ouais, je suis chaud patate. Mais vous allez voir, ils vont être amoureux à la fin, tu vas rien comprendre, ils vont demander toutes les semaines. Tu vas voir, déjà, j'ai
converti des gens. On a pris 500 nouveaux abonnés, là.
Mais ouais, j'ai converti des gens au rap coréen plein sur notre Discord. Tu vas voir, t'es pas prêt pour ce qui va se passer. La révolution est en marche.
C'est vraiment la fin de notre civilisation. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.